En effet, tout s'enchaîne, approuva le baron. Et l'histoire est complète. Sholmès reprit. Donc le vol a lieu. La dame sort le dimanche matin, rend compte à Lupin de ce qu'elle a fait et porte à Bresson la lampe juive. Les choses se passent alors comme Lupin l'avait prévu. La justice, abusée par une fenêtre ouverte, quatre trous dans la terre et deux éraflures sur un balcon, admet aussitôt l'hypothèse du vol par effraction. La dame est tranquille.
Soit, fit le baron, j'admets cette explication très logique. Mais le second vol?
Le second vol fut provoqué par le premier. Les journaux ayant raconté comment la lampe juive avait disparu, quelqu'un eut l'idée de répéter l'agression et de s'emparer de ce qui n'avait pas été emporté. Et cette fois, ce ne fut pas un vol simulé, mais un vol réel, avec effraction véritable, escalade, etc.
Lupin, bien entendu.
Non, Lupin n'agit pas aussi stupidement. Lupin ne tire pas sur les gens pour un oui ou un non.
Alors qui est-ce?
Bresson, sans aucun doute, et à l'insu de la dame qu'il avait fait chanter. C'est Bresson qui est entré ici. C'est lui que j'ai poursuivi. C'est lui qui a blessé mon pauvre Wilson.
En êtes-vous bien sûr?
Absolument. Un des complices de Bresson lui a écrit hier, avant son suicide, une lettre qui prouve que des pourparlers furent engagés entre ce complice et Lupin pour la restitution de tous les objets volés dans votre hôtel. Lupin exigeait tout. La première chose, c'est-à-dire la lampe juive, aussi bien que celle de la seconde affaire. En outre, il surveillait Bresson. Quand celui-ci s'est rendu hier soir au bord de la Seine, un des compagnons de Lupin le filait en même temps que nous.
Qu'allait faire Bresson au bord de la Seine?
Averti des progrès de mon enquête.
Averti par qui?
Par la même dame, laquelle craignait, à juste titre, que la découverte de la lampe juive n'amenât la découverte de son aventure. Donc, Bresson averti, réunit en un seul paquet ce qui peut le compromettre, et il le jette dans un endroit où il lui est possible de le reprendre une fois le danger passé. C'est au retour que, traqué par Ganimard et par moi, ayant sans doute d'autres forfaits sur la conscience, il perd la tête et se tue.
Mais que contenait le paquet?
La lampe juive et vos autres bibelots.
Ils ne sont donc pas en votre possession?
Aussitôt après la disparition de Lupin, j'ai profité du bain qu'il m'avait forcé de prendre pour me faire conduire à l'endroit choisi par Bresson. Et j'ai retrouvé, enveloppé de linge et de toile cirée, ce qui vous fut dérobé. Le voici, sous cette table.
Sans un mot, le baron coupa les ficelles, déchira d'un coup les linges mouillés, en sortit la lampe, tourna un écrou placé sous le pied, fit effort des deux mains sur le récipient, le dévissa, l'ouvrit en deux parties égales et découvrit la chimère en or, rehaussée de rubis et d'émeraudes. Elle était intacte. Il y avait dans toute cette scène, si naturelle en apparence, et qui consistait en une simple exposition de faits, quelque chose qui la rendait effroyablement tragique. C'était l'accusation formelle, directe, irréfutable, que Sholmès lançait à chacune de ses paroles contre Mademoiselle. Et c'était aussi le silence impressionnant d'Alice Demun. Pendant cette cruelle accumulation de petites preuves ajoutées les unes aux autres, pas un muscle de son visage n'avait remué. Pas un éclair de révolte ou de crainte n'avait troublé la sérénité de son limpide regard. Que pensait-elle? Et surtout, qu'allait-elle dire à la minute solennelle où il lui faudrait répondre? Où il lui faudrait se défendre et briser le cercle de fer dans lequel Herlock Sholmès l'emprisonnait si habilement? Cette minute avait sonné. Et la jeune fille se taisait.
« Parlez ! Parlez-t-on ! »
s'écria Monsieur d'Imbleval. Elle ne parla point. Il insista.
« Un mot vous justifierez, un mot de révolte, et je vous croirai. »
Ce mot, elle ne le dit point. Le baron traversa vivement la pièce, revint sur ses pas, recommença, puis s'adressant à Sholmès,
« Eh bien non, monsieur, je ne peux pas admettre que ce soit vrai. Il y a des crimes impossibles, et celui-là est en opposition avec tout ce que je sais, tout ce que je vois depuis un an. »
Il appliqua sa main sur l'épaule de l'anglais.
« Mais vous-même, monsieur, êtes-vous absolument et définitivement certain de ne pas vous tromper ?»
Sholmès hésita, comme un homme qu'on attaque à l'improviste et dont la riposte n'est pas immédiate. Pourtant, il sourit et dit
« Seule la personne que j'accuse pouvait, par la situation qu'elle occupe chez vous, savoir que la lampe juive contenait ce magnifique bijou. »
« Je ne veux pas le croire, » murmura le baron.
« Demandez-le-lui. »
C'était, en effet, la seule chose qu'il n'eût point tenté dans la confiance aveugle que lui inspirait la jeune fille. Pourtant, il n'était plus permis de se soustraire à l'évidence. Il s'approcha d'elle, et les yeux dans les yeux.
« C'est vous, mademoiselle ? C'est vous qui avez pris le bijou ? C'est vous qui avez correspondu avec Arsène Lupin et simulé le vol ?»
Elle répondit
« C'est moi, monsieur. »
Elle ne baissa pas la tête. Sa figure n'exprima ni honte ni gêne.
« Est-ce possible ?» murmura Monsieur d'Imbleval. « Je n'aurais jamais cru. Vous êtes la dernière personne que j'aurais soupçonnée. « Comment avez-vous fait, malheureuse ?»
Elle dit
« J'ai fait ce que M. Sholmès a raconté. La nuit du samedi au dimanche, je suis descendue dans ce boudoir. J'ai pris la lampe et le matin, je l'ai portée à cet homme. »«
Mais non !» objecta le baron. « Ce que vous prétendez est inadmissible !»«
Inadmissible ? Et pourquoi ?»
Parce que le matin, j'ai retrouvé fermée au verrou la porte de ce boudoir.
Elle rougit, perdit contenance et regarda Sholmès comme si elle lui demandait conseil. Plus encore que par l'objection du baron, Sholmès sembla frappé par l'embarras d'Alice Demain. N'avait-elle donc rien à répondre ? Les aveux qui consacraient l'explication que lui, Sholmès, avait fournie sur le vol de la lampe juive, masquaient-ils un mensonge que détruisait aussitôt l'examen des faits ? Le baron reprit
« Cette porte était fermée. J'affirme que j'ai retrouvé le verrou comme je l'avais mis la veille au soir. Si vous aviez passé par cette porte, ainsi que vous le prétendez, il eût fallu que quelqu'un vous ouvrît de l'intérieur. » C'est-à-dire du boudoir ou de notre chambre. Or, il n'y avait personne à l'intérieur de ces deux pièces. Il n'y avait personne que ma femme et moi. »
Sholmès se courba vivement et couvrit son visage de ses deux mains afin de masquer sa rougeur. Quelque chose, comme une lumière trop brusque, l'avait heurté, et il en restait ébloui, mal à l'aise. Tout se dévoilait à lui ainsi qu'un paysage obscur d'où la nuit s'écarterait soudain. Alice Demain était innocente. Alice Demain était innocente. Il y avait là une vérité certaine aveuglante. Et c'était en même temps l'explication de la sorte de gêne qu'il éprouvait depuis le premier jour à diriger contre la jeune fille la terrible accusation. Il voyait clair maintenant, il savait. Un geste et sur le champ, la preuve irréfutable s'offrirait à lui. Il releva la tête et après quelques secondes, aussi naturellement qu'il le put, il tourna les yeux vers Madame d'Imbleval. Elle était pâle, de cette pâleur inaccoutumée qui vous envahit aux heures implacables de la vie. Ses mains, qu'elle s'efforçait de cacher, tremblait imperceptiblement. « Une seconde encore, » pensa Sholmès, « et elle se trahit. » Il se plaça entre elle et son mari, avec le désir impérieux d'écarter l'effroyable danger qui, par sa faute, menaçait cet homme et cette femme. Mais à la vue du baron, il tressaillit au plus profond de son être. La même révélation soudaine qui l'avait ébloui de clarté illuminait maintenant Monsieur d'Imbleval. Le même travail s'opérait dans le cerveau du mari. Il comprenait à son tour, il voyait. Désespérément, Alice demain se cabra contre la vérité implacable. « Vous avez raison, monsieur, je faisais erreur. En effet, je ne suis pas entré par ici. J'ai passé par le vestibule et par le jardin, et c'est à l'aide d'une échelle. » Effort suprême du dévouement. Mais effort inutile. Les paroles sonnaient faux. La voix était mal assurée, et la douce créature n'avait plus ses yeux limpides et son grand air de sincérité. Elle baissa la tête, vaincue. Le silence fut atroce. Madame d'Imbleval attendait, livide, toute raidie par l'angoisse et l'épouvante. Le baron semblait se débattre encore, comme s'il ne voulait pas croire à l'écroulement de son bonheur. Enfin, il balbutia. « Parle ! Explique-toi ! » !»«
Je n'ai rien à te dire, mon pauvre ami, » fit-elle très bas, et le visage tordu de douleur.
« Alors, mademoiselle... »«
Mademoiselle m'a sauvé, par dévouement, par affection. » Et elle s'accusait.
« Sauvé de quoi ? De qui ?»«
De cet homme. »«
Bresson ? » ?»«
Oui. » C'est moi qu'il tenait par ses menaces. Je l'ai connu chez une amie et j'ai eu la folie de l'écouter. Oh, rien que tu ne puisses pardonner. Cependant, j'ai écrit deux lettres. Des lettres que tu verras. Je les ai rachetées. Tu sais comment. Oh, aie pitié de moi. J'ai tant pleuré.
Toi, toi, Suzanne ?
Il leva sur elle ses poings serrés, prêt à la battre, prêt à la tuer. Mais ses bras retombèrent, et il murmura de nouveau
« Toi, Suzanne, toi, est-ce possible ?»
Par petites phrases hachées, elle raconta la navrante et banale aventure, son réveil effaré devant l'infamie du personnage, ses remords, son affolement. Et elle dit aussi la conduite admirable d'Alice. La jeune fille, devinant le désespoir de sa maîtresse, lui arrachant sa confession, écrivant à Lupin et organisant cette histoire de vol pour la sauver des griffes de Bresson.